Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec Apolline Matin. L'État a-t-il abandonné les banlieues à Sevran, Seine-Saint-Denis? Une nouvelle fusillade a fait 3 morts en moins de 48 heures ce week-end. La faute aux responsables politiques pour Sullivan Jour, élu d'opposition au conseil municipal. Il est éducateur sportif et affirme que la jeunesse vit dans une misère sociale.
Il y a un climat de misère sociale où les responsables politiques depuis des décennies n'ont pas mis les moyens humains et sociaux nécessaires pour offrir à notre jeunesse une exposition différente qui leur permettrait d'avoir une sensibilité culturelle, artistique, sociale différente qui pourrait les sortir de d'un certain obscurantisme.
Sullivan Jousse, élu d'opposition au conseil municipal de Sevran. Je te voyais réagir pendant qu'on l'écoutait, Fred Hermel.
Mais dire qu'on n'a pas investi dans les banlieues, c'est faux. C'est faux. Que tous les problèmes n'aient pas été réglés, c'est une évidence, vu la violence qui monte. Mais c'est faux de dire qu'on a abandonné les banlieues, qu'on n'a pas investi dans les banlieues. C'est faux, on a déversé des milliards et des milliards. C'est la réalité.
634 millions d'euros par an.
Ben voilà.
Oui, donc on est sur des milliards.
On est sur des milliards et des milliards depuis 20, 30 ans, quoi. Donc, alors on s'y est peut-être mal pris. Peut-être que cet argent n'a pas été bien déversé. Voilà. Après, il y a beaucoup d'infrastructures, pas les infrastructures, qui ont été brûlées aussi, par des émeutiers, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tant qu'on aura ce discours-là, on n'avancera pas.
C'est une des plus grosses dépenses sociales à caractère politique, pas sociales en général, que la République française a faites depuis Bernard Tapie. C'est des sommes incommensurables. Fred a peut-être raison. Ça n'a pas été accompagné d'une autre. C'est pas seulement investir dans la ville, c'est à l'école, dans le réseau social, dans l'éducation, c'est pas une mesure seule. Et c'est vrai que si cet argent a été gaspillé, c'est parce qu'il n'a pas été accroché. J'allais dire, l'intendance n'a pas suivi sur le reste de la société. Mais dire, la France est le pays d'Europe occidentale où il a été fait le maximum, mais plus que partout. Et en plus, c'est une constance philosophique de toute cette classe politique française, on sait que c'est la ville. Et aujourd'hui, c'est au cœur du débat. C'est quand même Mitterrand qui a inventé le ministère de la ville avec Bernard Tapie. Borloo a proposé une somme encore plus. Ça a été l'objet d'une dissension avec le président de la République parce que Macron avait dit que c'était un problème d'homme blanc, de mâle blanc de 50 ans. Donc c'est au cœur, voilà. Et on a mis des sommes astronomiques. Quand on voit qu'il y a des infrastructures publiques qui sont détruites par les émeutiers, c'est pour eux. Ils cassent des choses qu'on a construites pour eux. Voilà.
Je peux te dire qu'à la campagne, beaucoup de campagnes qui auraient aimé recevoir autant d'argent que les banlieues.
Ah oui. Donc il y a la question budgétaire. Et effectivement, on l'a cité. Hein, je répète, 634 millions d'euros par an investis en matière de politique de ville pour les infrastructures, pour le service public, pour les services culturels, artistiques, les activités extrascolaires, pour ces jeunes à la fois des cités, des banlieues, mais de toutes les communes. Finalement, c'est pas uniquement propre à ces banlieues. La question est effectivement, je rejoins Fred là-dessus, comment ça a été dépensé? Moi, par exemple, je suis en train, pour une question qui me concerne directement, je suis en train d'étudier le taux d'équipement sportif à travers la France et la distinction qu'il peut avoir entre les territoires. On a le sentiment, quand on voit les budgets dépensés, les sommes dépensées, que théoriquement, l'ensemble des territoires français auraient le même accès en termes d'équipement sportif. Qu'on soit en Bretagne ou en Seine-Saint-Denis, il y aurait la même équivalence. Pas du tout. En Seine-Saint-Denis, un jeune sur deux ne sait pas nager. Le taux de gens qui ne savent pas faire de vélo, qui ne savent pas nager, qui n'ont pas accès à un gymnase, qui n'ont pas accès à un terrain de foot.
C'est la même chose à Marseille.
Mais bien évidemment, je suis pas en train de dire que l'un ou l'autre. C'est juste que l'argent.
Je parle des quartiers nord de Marseille, par exemple.
On est entièrement d'accord. L'argent qui est donné, et c'est vrai que d'un point de vue macro, voilà, l'État donne. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment on dépense l'argent? Il y a des campagnes qui ont des équipements, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des jeunes qui ont accès à des activités périscolaires, extrascolaires, et d'autres qui n'en ont pas. Alors je dis pas que c'est la seule responsabilité. Hein. Je dis pas parce que vous n'avez pas de terrain de foot, vous donnez dealer. C'est pas ce que je dis. Simplement, quand on dit voilà, c'est l'échec de l'État. L'État donne de l'argent. Mais comment derrière c'est dépensé? C'est mal dépensé et évidemment c'est très mal dépensé.
Si tu as dit, c'est un jeune sur deux qui ne sait pas nager.
En Seine-Saint-Denis, ouais.
Bah moi je suis du Pas-de-Calais, je sais pas nager non plus.
T'es pas jeune.
Ah oui, non plus.
L'antisémitisme. Chez Apolline Matin ce matin, on a parlé de ce sujet. Est-ce que l'antisémitisme se banalise en France? Alors que s'ouvrent aujourd'hui les assises contre l'antisémitisme organisées par Aurore Berger, les sondages pleuvent et sont sans équivoque. D'après la dernière étude IFOP qui a été publiée ce matin, 35% des moins de 25 ans estiment qu'il est justifié de s'en prendre aux Juifs en raison de leur soutien supposé à Israël. Ceci explique pas l'explosion des actes antisémites, forcément. En tout cas, c'est ce que dit Élie Corchia, il est président du Consistoire central de France.
Au cours du troisième trimestre 2023, nous avons vu une explosion de 1000% des actes antisémites dans notre pays, en France. Donc on a bien vu que cette explosion des actes antisémites, elle est due à ce que vous avez appelé, effectivement, à juste titre, cette banalisation de l'antisémitisme, cette libération, non pas seulement de la parole. Déjà, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, et l'étude le montre très très bien, il y a une déferlante sur les réseaux sociaux d'antisémitisme, souvent sous couvert d'antisionisme. Donc Israël assassin...
35% des moins de 25 ans estiment qu'il est justifié de s'en prendre aux Juifs en raison de leur soutien supposé à Israël. Ça te fait réagir comment, Fred ?
Mais c'est une horreur absolue. Alors, il y a les chiffres qui sont ce qu'ils sont. Et puis après, il y a les expériences de chacun. Moi, j'ai beaucoup de témoignages directs de gens, d'une amie qui a un nom de famille à consonance juive. Elle est juive et son nom est à consonance juive, juif ashkénaze, d'Europe de l'Est, qui commande un Uber. Le type vient en disant... Je suis venu te dire, je vais pas te prendre sale juive. Et ça, c'est pas qu'on m'a dit. C'est une mamie qui me l'a raconté directement de ce qu'elle vit. Le nombre de juifs qui décident d'enlever la mezouza. Vous savez, la mezouza, c'est ce petit
symbole.
Ce petit symbole avec
l'œil, ouais.
Avec la Bible à l'intérieur, qu'on touche avant d'entrer dans une maison, même dans entre chaque pièce. Beaucoup ont enlevé leur mezouza parce qu'ils ont peur des livreurs, parce qu'ils ont peur de gens qui pourraient rentrer, parce qu'ils sont aujourd'hui identifiés comme juifs, donc comme ennemis. Donc c'est pas simplement les juifs, c'est tous les témoignages de gens dans notre entourage qui nous racontent ce qui leur arrive. Beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui. En France, aujourd'hui, être juif en France, c'est être contraint de prendre de nombreuses précautions. De gens, par exemple, quand ils commandent à manger sur différentes plateformes, etc., qui changent leur nom. Ou qui donnent l'adresse à côté pour aller chercher. Parce que, voilà, vous vous rendez compte le dans quelle ambiance on est. On aurait pu imaginer qu'après le pire massacre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.
Le 7 octobre.
Que ça allait peut-être avoir une réaction de sympathie envers un peuple qui a été agressé de cette manière. Et c'est tout le contraire, en fait.
Perico Legas.
C'est la plus grande tragédie à laquelle notre société moderne, française, européenne, est confrontée. C'est une tragédie politique, c'est une réalité. Alors, attention, soyons très précis, c'est tellement grave et c'est tellement horrible. Soyons très précis, ce n'est pas l'antisémitisme des années 30, des chrétiens, tueurs de juifs, c'est pas non plus l'antisémitisme des nazis avec cette race qui allait là. C'est la confusion, c'est le déplacement du conflit israélo-palestinien dans la société européenne, dans la société française. Aujourd'hui, les juifs, pour peu qu'ils aient un patronyme juif, c'est arrivé à Glucksmann l'autre jour à Saint-Etienne. Vous êtes juif, vous êtes complice de ce qu'Israël est en train de faire à
Gaza. Ce n'est que ça.
C'est que ça.
C'est plus l'antisémitisme qu'on a connu en France. Qu'on a connu en France à la fin du 19e siècle. L'affaire Dreyfus.
Laisse-moi finir. Si, Rémi, c'est à la marge.
Oui.
Aujourd'hui, cette mouvance, cette véhémence qui permet à des gens qui ne sont pas antisémites au terme de ce qu'étaient les nazis de dire sale juif. Et voilà, c'est vous êtes complice du génocide que l'État d'Israël et ce barbare de Netanyahou est en train de commettre à Gaza.
Donc ça serait un antisémitisme, j'essaie de peser mes mots, une sorte d'antisémitisme politique.
Il faudrait l'appeler anti-israélisme, donc anti-sionisme, mais ensuite on rentre dans des nuances sémantiques compliquées. C'est le juif, aujourd'hui, citoyen français à part entière, et c'est des gens de gauche qui le pensent, et il y en a à la France insoumise, le juif, aujourd'hui, est censé être complice du génocide que l'État d'Israël commet à Gaza. Donc,
je ne dis pas que
c'est un génocide. Je parle de la définition de l'antisémitisme aujourd'hui dans la tête des gens. Israël est en train de commettre un génocide ou un crime de guerre ou une barbarie. Et c'est vrai que le problème est entier et que le gouvernement Netanyahou a aggravé la situation. Et malgré le 7 octobre, qui est pour moi la pire abomination qu'il y a eu, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, en France, il y a des gens, j'allais dire, pas sensés, mais de bonne foi, qui considèrent de façon abominable, mais assez abominable, que tout juif français est de fait, par son patronyme, complice de ce qui se passe.
Et tu évoquais Raphaël Glucksmann, qui avait pris des positions très fortes contre le gouvernement de Netanyahou contre Israël. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ses idées ne comptent pas. Ce qui compte, c'est son patronyme.
C'est dramatique.
C'est
pour ça qu'aujourd'hui, dans le débat, non pas politique ou médiatique français, mais dans le débat global franco-français, on a perdu toute forme de nuance.
Oui,
Péricole l'a très bien développé. Il y a l'antisémitisme, effectivement, effectivement qu'on a malheureusement connu et qu'on a qui a un passif, hein, en tout cas la France a un malheureux passif. Mais quand on entend qu'il y a une augmentation de 1000% des actes antisémites, c'est 1000% en plus, hein, bien évidemment, c'est la conséquence de l'amalgame qu'il peut avoir entre juifs, donc forcément pro-Netanyahou, donc forcément pro-Israël, donc forcément contre Gaza, donc forcément contre la Palestine. Enfin non, je veux dire, on peut être juif, c'est une religion, c'est pas enfin
autre chose,
peu importe, simplement aujourd'hui il y a malheureusement des gens qui vont faire l'amalgame entre qui vont associer, donc on a perdu toute forme de nuance, qui vont dire t'es juif, donc t'es pour Netanyahou. Mais non, citoyen français, non, je veux pas le savoir. T'es pour Netanyahou, t'es contre la Palestine, t'as tué 35 000 personnes. C'est toi qui es responsable de la mort de 35 000 personnes.
Tu es complice.
Non, mais attendez, nuance.
Avec ce détail aggravant que je veux absolument affirmer ici, ceux qui sont dans la confusion, qui font cet amalgame épouvantable, ignoble, c'est tragique. J'en veux à ceux qui soufflent les braises, sachant que c'est pas vrai. À ceux, et on sait très bien à qui je pense, qui soufflent les braises dessus.
Et les filles. Dilemme.
Je l'ai pas dit parce qu'il n'y a pas que, et qu'à LFI, tout le monde ne partage pas cet avis. Ruffin est horrifié par ça.
Ah oui.
Mais il y a des gens dans la gauche extrême française qui soufflent sur ces braises et qui pensent qu'ils vont tout simplement pouvoir aller à la guerre civile en jetant les musulmans français contre les juifs.
Rémi, tu parlais tu voulais mettre des mots et des termes sur le sujet du jour. Tu parlais d'antisémitisme politique. Effectivement, quand on voit que la LFI va politiser cette chose malheureuse, oui, on est dans une forme d'antisémitisme politique. On va dire, voilà, on va être pour les Palestiniens, donc mécaniquement contre Israël. Je parle des ténors. Je parle de certains qu'on entend, et même pas la NUPES. C'est vraiment terminé. Vraiment, LFI et certains LFI qui ont politisé ce débat, je vais dire, c'est pas un débat, c'est juste attristant de l'entendre et de l'écouter, et qui vont mettre dans des camps, dans une forme très manichéenne. T'es pour la Palestine, t'es pour Israël, t'es pour Israël, t'es forcément islamophobe, t'es pour la Palestine, t'es forcément antisioniste, antisémite.
Donc tu vas voter pour nous?
Donc
c'est ça leur calcul.
Sauf que la dénonciation de cet antisémitisme, je dis bien abject, ne dédouane pas le gouvernement israélien de ce qu'il fait à Gaza. Et le problème, il faut trancher, mais de façon objective, avec bien sûr et du sang-froid.
Apolline Matin, pratiquez-vous le bed-rotting? Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une tendance qui consiste à traîner au lit le plus longtemps possible. Mais ça fait des millions de vues.
Quand j'étais jeune, on appelait ça la grasse mat.
Ouais, ça fait des millions de vues sur TikTok et Instagram. Charles Manien nous analyse le succès de ces vidéos.
Bed-rotting, on pourrait traduire ça littéralement par pourrir au lit. Ça consiste à traîner au lit le plus longtemps possible pour y manger, lire, regarder des séries. Objectif, je cite, se reconnecter avec soi-même. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Est-ce qu'on n'aurait pas encore avant de trouver un mot anglais et un concept fumeux pour simplement décrire une grasse mat? Eh bien, la réponse est oui. Mais
c'est tout simplement une bonne vieille grasse mat.
Exactement. Mais sur les réseaux, on trouve désormais des milliers de vidéos d'influenceurs qui vous donnent des conseils pour bien traîner au lit. Vous fatiguez pas à tout regarder. Vous n'allez rien apprendre d'intéressant. Mais ce qui est notable, c'est le succès de ces vidéos, des millions de vues, sûrement de la part d'internautes eux-mêmes en train de traîner au lit. Donc en résumé, je suis dans mon lit en train de ne rien faire, tout en regardant des vidéos de gens qui ne font rien dans leur lit.
C'est l'horreur.
Et si c'était ça la fin de la civilisation?
C'est affligeant. On va carrément là débattre et discuter de gens qui traînent dans leur lit en regardant des vidéos de gens qui traînent dans leur lit.
Oui.
Et limite, ces gens regardent des vidéos qui traînent dans leur lit, qui vont regarder des vidéos qui traînent dans leur lit. Non, mais moi, j'ai une solution. Il faut supprimer TikTok. TikTok, ce n'est que ça. C'est que des vidéos qui ne servent strictement à rien.
Si, à espionner pour les Chinois.
Peut-être. Ce concept-là, on le donne à nous.
Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais. Le fait est que c'est
ça s'appelle la grasse mat. Qu'est quoi de tendance? Tu me parles de mode là. C'est la grasse matinée. On fait ça depuis que le monde est monde.
Tu ne mets pas en train de faire la grasse mat.
Non, mais heureusement. C'est quoi ce concept
de faire la promotion de la grasse mat?
Ok, samedi, je vais me réveiller à 7h. Je vais aller prendre une douche. Je vais me faire tout beau, tout propre. Je vais me remettre au lit. Et j'ai une fille en mode, je viens de me réveiller. je vais rester au lit 3 heures. Salut. Non, mais attendez, on est où, là? C'est quoi,
ce troll? En fait, j'adore ce que Pierre, finalement, c'est un vieux conservateur, finalement. Il décongratte un petit peu, tu vois. Il est pas progressiste parce que c'est ça.
On disait avant, c'est un jeune vieux.
C'est un jeune vieux.
Bisounours.
Le truc, c'est de mettre des mots anglais pour des trucs qui existent déjà chez nous. C'est la grasse mat. Vous savez, un jour, il y a un célèbre magazine très féminin, très important en France, très classe, qui avait fait les nouvelles tendances du douching. Le douching. C'est la douche. Prendre la douche, ça fait ça le douching. Non, mais à un moment, il faut arrêter de mettre des mots anglais sur des trucs qui existent déjà.
Dans les années 60, sur la grasse matinée, quelqu'un m'a dit, il s'était levé à 8 heures du matin. À l'époque, c'était la grasse matinée.
C'était mieux avant. Apolline Matin, un monument s'en va. Tiens, c'était mieux avant. Écoute ça, Perico, l'émission des chiffres et des lettres sur nos petits écrans depuis 1965 va s'arrêter en fin de saison, faute d'audience suffisante, si, si. C'était le plus vieux jeu TV. Oh, écoutez Charles Matin, qui nous en a parlé ce matin, dans Apolline Matin.
Le compte est bon pour le plus ancien jeu télé français, né en 1965, d'abord sur le RTF, sous le nom Le mot le plus long, avant de devenir Des chiffres et des lettres en 1972, diffusé quotidiennement pendant plus de 50 ans, avant de passer le week-end il y a 2 ans, sans réellement retrouver son public, hein, ce qui a conduit donc France Télé à annoncer cet arrêt définitif à la rentrée prochaine, animé successivement par Patrice Lafont, Laurent Cabrol, Laurent Romeshko. Ce sont des milliers de candidats qui se sont succédés, avec évidemment quelques extraits restés cultes.
Philippe en 7 lettres.
Souple.
Et ouais. Axel.
C'est pas trop autre chose que salope.
Perico, faut faire court en 10 lettres.
C'est la preuve de l'inculture.
Pas en 10 lettres, hein.
C'est la déculturation du peuple. C'était une émission populaire parce que tout le monde s'intéressait. Comme on ne sait plus lire et qu'on ne sait plus écrire, la majorité de la population de cette tranche d'âge, en termes d'audience, ça ne suffit plus. C'est une photographie parfaite de ce qui est devenu la société française. Et évidemment, ça ne nous rassure pas. Et c'était un grand...
Ça n'a jamais été regardé par des jeunes.
Pour moi, c'est la famille. Pour moi, c'est la famille. Il y avait toute la famille, mes parents, mes grands-parents et tout. On regardait tous les chiffres et les lettres. C'était vraiment...
Oui, évoluer.
Et en plus, quand t'es enfant à l'école, tu te dépêchais pour essayer de trouver plus vite que tes parents, essayer d'avoir un mot, etc. C'est exceptionnel. Moi, l'un de mes rêves, c'est de rencontrer Patrice Lafont. Il a bercé mon enfance.
Tu sais que c'est samedi maintenant, les chiffres des lettres.
Patrice Lafont, si vous écoutez, je serais ravi de vous rencontrer parce que je trouve que ces personnages, mon maître Capello est décédé, mais c'était des personnages incroyables et je suis d'accord avec Perico. C'est parce que c'est la décadence de notre niveau de calcul et de aussi, mais je pense sincèrement, je pense que mes impôts servent, même si j'ai plus de devance, mes impôts quand même servent à financer le service public. Je pense que le service public doit aussi ne pas regarder l'audience et continuer à financer ce genre de programme.
Mais il y a des jeux culturels la semaine, le week-end, sur France 2.
Je suis désolé, Pierre, mais le compte est bon.
Le compte est bon.
On n'a plus le temps.
487.
C'est terminé.